Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la joie, la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, soient toujours avec vous. Mes chers amis, vous allez assister, et je le mentionne pour ceux qui sont ici peut-être pour la première fois, à une initiative qui devient de plus en plus fréquente au cœur des fondations Pax Vobis et Que ton règne vienne. Initiative qui se multiplie depuis 1984 en particulier et que nous appelons le lancement officiel d'un vin nouveau du Seigneur. Ou si vous voulez, sa mise sur le marché ouvert du libre-échange spirituel en Église. Vous savez comme moi qu'avec le temps et les siècles, il faut bien l'avouer, lentement mais sûrement, nous avons ou tellement dilué le message du Seigneur qu'il est redevenu eau de vin qu'il était au début, où nous l'avons tellement compliqué et peut-être biaisé, et il a tourné tranquillement au vinaigre, et les gens se sont mis à redouter ce goût acide, ce goût amer. Alors le Seigneur, actuellement, à la grandeur du monde, et nous n'en avons pas le monopole, opère à nouveau le grand miracle de Cana. Et dans tous les milieux qui ont assez de foi et d'humilité pour le lui demander, le Seigneur vient changer son vin, ou notre eau plutôt, en son vin, comme il l'avait fait à Cana. Et par vin nouveau du Seigneur, il faut entendre qu'il nous redonne les mêmes grandes vérités essentielles de son message, donc qui sont déjà dans l'Évangile, mais il nous les donne à nouveau en des termes très clairs, très simples, où l'on retrouve vraiment à nouveau toute la valeur et la saveur de son message. Depuis à peu près un an et demi, comme vous le savez, à quelques reprises, ici et là, au pays ou à l'étranger, nous avons eu l'occasion, vous-même et d'autres, de goûter un peu à ce vin nouveau sur la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Et si vous vous en souvenez, plusieurs parmi vous et d'autres ont été particulièrement interpellés par la qualité, la saveur, le velouté même de cet enseignement du Seigneur. Et à dessein, comme c'est d'ailleurs notre habitude, et que, comme le Seigneur nous le conseille d'ailleurs, nous laissons cuver ce vin pendant un certain temps, dans la prière et surtout dans la mise en pratique, dans l'intégration de cet enseignement dans notre propre vie, dans notre vécu bien vécu. Aujourd'hui, il semble que l'heure est venue de mettre toutes ces réflexions concernant la liberté spirituelle des enfants de Dieu sur le marché, en Église, au cœur du peuple. Le titre de cet enseignement, c'est « Vive la vraie liberté des enfants de Dieu ». Et vous qui assistez à cet enseignement enregistrement, vous avez déjà entre les mains un schéma assez élaboré sur le sujet, avec le plan de l'exposé, et nous nous en servirons au fur et à mesure. Quant à vous qui écouterez ou écoutez sur cassette cet enseignement, vous devrez suivre sur un plan plus condensé, mais utile pour pouvoir bien suivre l'exposé. Il accompagnera les cassettes et si quelqu'un vous prête sa cassette ou ses cassettes, demandez d'avoir ce schéma car il vous sera absolument nécessaire. La première question que nous allons nous poser et qui est indiquée sur le plan, quelle est l'origine et l'importance de la vraie liberté spirituelle? Vous savez comme moi que selon le plan de Dieu, Dieu trouve tout son bonheur et sa béatitude en lui-même. Il ne lui manque rien. Dieu aurait pu se contenter d'exister et il avait toute béatitude. Cette béatitude qu'il possède, ce grand bonheur en lui-même, vient de deux choses en particulier. D'abord, du fait qu'il se connaît lui-même comme un être parfait. Et cette connaissance de sa perfection est pour lui source de béatitude. Et deuxième chose, ça vient du fait qu'il peut s'aimer comme étant le souverain bien. Et son amour du souverain bien qu'il est comble également son être. Et comme il est infini, cette connaissance et cet amour sont infinis et sont complets. Il n'avait besoin de personne d'autre, ni de rien de plus. Mais, étant tout amour, et c'est Saint Jean qui nous le rappelle dans sa première épître, « Dieu est amour », étant tout amour, il lui a semblé bon de laisser déborder cet amour hors de lui et de vouloir le partager avec d'autres. Et c'est ainsi qu'il a créé, comme on le sait, les anges pour vivre dans son entourage immédiat et pour les humains pour vivre sur la planète Terre. À ces humains qu'il a créés sur la planète Terre, il a voulu donner un privilège extraordinaire, celui de la liberté. Il n'a pas donné de la même façon aux anges, mais aux humains, il a donné une liberté entière. Liberté d'accueillir, d'apprécier et de lui retourner ce partage de bonheur et d'amour qu'il fait avec eux. Car pour lui et en lui, l'amour est si pur qu'il exige le libre échange parfait, aller et retour. D'où peut-on tirer le modèle de la liberté? Bien, de nul autre que de Dieu. C'est lui qui nous en fait le don. Donc, l'origine de la parfaite liberté est en Dieu lui-même. Il est en effet l'être qui possède le plus et le mieux, la liberté la plus parfaite. Dieu est tout à fait libre dans l'activité de sa volonté. Comme il sait tout, comme il peut tout, comme il voit tout, car il a tout fait, rien ou personne ne peut l'influencer ou l'empêcher. Il a créé l'univers, il a créé les astres, les anges, les êtres humains, le ciel et la terre, en toute liberté, parce qu'il l'a voulu ainsi. Et il en est de même de la rédemption. C'est librement qu'il a envoyé Jésus s'incarner et nous sauver, et que celui-ci a donné sa vie par amour pour nous, librement. Et c'est cet acte de liberté, de rédemption et d'incarnation que Lucifer et compagnie n'ont pas accepté et qui semble être à l'origine de leur révolte qui les amenait dans la condamnation et le statut de mauvais ange. Ils avaient toute la lumière pour voir l'amour qui inspirait Dieu, que Dieu était roi et maître de sa décision s'il voulait envoyer son Fils pour racheter le monde qui allait éventuellement pécher et qu'il voulait éventuellement sauver. Il avait toute liberté de le faire. Et Lucifer et les autres se sont insurgés contre ce plan, et c'est comme ça qu'ils ont été condamnés. Et il n'y a pas de revenez-y pour eux. Ils n'ont pas la liberté de revenir comme les humains qui se trompent peuvent revenir. Les anges avaient un choix à faire, ils l'ont fait, c'est pour l'éternité. Dieu est la liberté même, donc. La liberté de vie, liberté de volonté, de principe, d'amour. Et la vie au ciel est un lieu de liberté. Il n'y a personne qui va entrer au ciel de force. On peut même, ici, en parenthèse, y trouver une preuve de l'existence du purgatoire et de l'enfer, dont certains théologiens semblent douter ou faire douter. C'est que, au nom de la liberté que nous avons reçue, personne ne peut être forcé à aller passer sa vie éternelle au ciel s'il n'en veut pas. Et s'il n'est pas prêt, il doit y avoir un endroit pour se préparer à y entrer. Donc le purgatoire, l'ambassade, l'antichambre. Et quelqu'un qui dirait « je ne veux rien savoir du bonheur éternel avec Dieu, je le rejette », mais il faut prévoir un endroit. Donc, au nom de la liberté, on pourrait affirmer, sans l'ombre de doute, qu'il y a un triple lieu qui nous attend après la mort. Donc, son amour pour nous est libre. Et c'est parce qu'il veut bien nous aimer qu'il nous aime. Tout ce qui est de Dieu est libre. Tout ce que Dieu fait est libre. Tout ce que Dieu dit est libre. C'est donc librement qu'il nous a créés libres. Notre liberté a sa source en sa liberté divine et doit donc s'y alimenter, s'y ressourcer toujours. Je terminerai ce point sur l'origine et l'importance de la liberté en citant quelques textes bibliques. Jésus disait aux Juifs, la vérité vous fera libre. Et comme ils en doutaient, il leur a répliqué, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On trouve ça dans Jean au chapitre 8e. Dans l'épître de Saint Jacques affirme ceci, « Celui qui se penche sur la loi parfaite de la liberté et s'y tient attaché, celui-là trouve son bonheur en le pratiquant. » Et plus loin, il dit, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Chapitre 1 et 2 de l'épître de Saint Jacques. Dans la première épître de Saint Pierre, on entend l'exhortation suivante, « Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. » Chapitre 2 de la première épître. On entend et on connaît fort bien cette exclamation de Paul aux Galates, « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. » Chapitre 5, verset 13. Et quelques versets plus loin, le même Paul donne des exemples de ce qu'il appelle les œuvres de la chair. Versets 19 et 21. qui sont dus à des excès, à des abus ou à des déformations de la vraie vérité, le libertinage, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les discordes, la jalousie, les emportements, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille, etc., qui sont des abus de liberté. Et finalement, Jésus à ses disciples leur donne le secret. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comme on le verra plus loin, on ne peut pas être libre hors de la vérité et de la charité. Donc, par notre fidélité, on découvre la vérité qu'il est, et la vérité qu'il est nous aide à saisir sa volonté et son jugement, à nous y conformer, et c'est comme ça qu'on devient libre. En conclusion de ce point, la liberté spirituelle des enfants de Dieu est un don du Père, c'est une grâce acquise par le Christ, car, comme le rappelle Paul aux Galates, c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, et c'est un bienfait continu communiqué par l'Esprit Saint. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Demandons-nous maintenant, mes chers amis, pourquoi faut-il s'intéresser activement à cette question de la liberté? Je pourrais donner 2-3 douzaines de motivations, je n'en donne qu'une demi-douzaine. Le premier motif, c'est que la liberté est vraiment indispensable à la croissance de l'amour et donc de la vie spirituelle. Il faut vraiment être de plus en plus libre en nous-mêmes pour vraiment découvrir, accueillir, apprécier et laisser agir de plus en plus l'amour de Dieu en nous et à travers. Tout manque à la liberté, toute portion de notre être qui n'est pas libre, fait obstruction à cette infusion ou effusion d'amour trinitaire qui est le moteur indispensable à toute vie humaine et chrétienne. Deuxième motif, la liberté, c'est peut-être ce qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est paradoxal, parce qu'on entend parler de liberté comme jamais auparavant. Les affiches de liberté, nos libertés, les droits et libertés, il n'y a jamais tant eu d'organismes pour promouvoir la liberté dans le monde, et pourtant, nous sommes de plus en plus esclaves et prisonniers de notre civilisation actuelle. On a complètement perdu le sens, la nature et le rôle de la liberté. Troisièmement, c'est que peut-être qu'on a, et il faudrait s'examiner là-dessus et on le fera au cours de prochaines interpellations, on a beaucoup trop omis d'assurer en Église et dans l'éducation en général, qu'elle soit familiale ou scolaire, l'éveil, l'accueil et la compréhension de ce qu'est la vraie liberté. On en est même arrivé à croire et à faire croire que perdre sa liberté, d'une certaine manière, c'était vertueux. Et qu'une fois qu'on n'a plus sa liberté, la meilleure attitude, c'est de s'y résigner. On a même peu à peu cru que la vie de communauté, qu'elle soit matrimoniale ou religieuse, est synonyme de privation de liberté. alors que la vie de célibataire, c'est synonyme de liberté. Or, c'est tout le contraire. Car là où il y a deux êtres et davantage, s'il y a amour et liberté, la communauté matrimoniale, paroissiale ou religieuse devenant de plus en plus communautaire, l'amour et la liberté vont en augmentant, et alors la perception, l'alignement ou l'enlignement entre la volonté, le jugement de Dieu et notre volonté, notre jugement, deviennent beaucoup plus faciles. Quatrième motif. Dans le domaine de la guérison intérieure, le ministère m'a souvent montré que lorsqu'on prie pour la guérison intérieure, parfois, la grâce du Seigneur ne passe pas comme elle voudrait ou comme elle devrait. Et c'est toujours à cause d'une des trois raisons suivantes. Le non-pardon, la non-présence au vécu actuel ou la non-liberté. Et c'est comme ça que des gens disent souvent, bien, je suis allé, puis on a prié sur moi, j'ai accordé tous les pardons. Je suis reparti, puis je me sens pas libéré, ça revient comme avant. Alors ça peut être le manque de liberté, ça peut être le manque de pardon, et ça peut être le manque de spiritualité de la présence. Des gens qui vivent trop dans le passé puis dans l'avenir, et pas suffisamment dans le présent, où toutes nos facultés sont à leur meilleur et toutes les grâces nous sont données pour le présent, comme Dieu vit dans le présent. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion, dans un autre enseignement, de développer l'importance de cette spiritualité du présent. Enfin, on pourrait rajouter un cinquième et dernier motif. La liberté est une des trois grandes composantes de la paix intérieure. J'ai eu l'occasion, en fin de semaine dernière, de procéder à l'enregistrement d'un enseignement, de trois enseignements sur cassette maintenant, intitulé « La paix intérieure profonde. Comment l'acquérir et la conserver ?» Et c'est la paix intérieure est un grand océan qui est alimenté par trois fleuves. La charité, la vérité et la liberté. Et c'est ces trois fleuves-là qui entretiennent, développent, confirment ma paix intérieure. Et dans ce sens-là, l'enseignement sur la liberté peut nous aider. Passons au troisième point indiqué dans le plan. Nature et rôle de cette vraie liberté spirituelle. Et ici, je vous demande de mettre sous vos yeux le schéma qui est à la page 2. Vous voyez au centre du schéma une énorme flèche noire qui relie au bas la volonté et le jugement personnel avec en haut la volonté et le jugement de Dieu. Eh bien, l'essentiel de la liberté spirituelle des enfants de Dieu, c'est de pouvoir en arriver à une parfaite conformité en tout, partout et toujours entre ma volonté, mon jugement personnel et celui de Dieu. Quand j'arrive à ça, je suis un être foncièrement libre. Je peux entendre l'expression des volontés des autres. Je peux même, de temps en temps, décoder ma propre volonté. Mais tout cela, je suis capable de le placer par rapport à la volonté de Dieu. Et la même chose pour le jugement. Donc, c'est ça, avant tout, être libre. Et vous comprenez comment on en est loin dans notre société d'aujourd'hui. La vraie liberté ne part pas de l'extérieur, elle ne vient pas du dehors, mais s'établit d'abord au fond de soi et rayonne vers l'extérieur. Et quand j'ai acquis cette liberté essentielle, profonde, intérieure, que je peux me dire ce que je veux, Seigneur, je crois que c'est ça que tu veux, même j'en suis sûr, ce que je pense, je juge, ma manière d'évaluer, c'est conforme à ton jugement, après ça, ça déborde et ça entre dans toutes les autres formes de liberté. Ça influence ma liberté d'action, ma liberté d'opinion, ma liberté de conscience, ma liberté de parole, etc. On ne peut pas échapper à cette loi fondamentale puisqu'on a été créé. Et que comme être créé, on ne peut pas se dissocier du Créateur. Donc, ce que le Créateur a voulu en nous créant, il continue à le vouloir en nous procréant et en nous tenant en vie comme être créé. C'est élémentaire comme exigence, mais trop de gens ne se donnent pas la peine d'y arriver et c'est pour ça. Alors, il est donc faux d'imaginer une société, comme beaucoup le croient aujourd'hui, qui va nous donner la vraie liberté. Celle-ci doit d'abord être voulue, comprise et accueillie par les individus à l'intérieur d'eux-mêmes. Et la société, elle, peut protéger, respecter, améliorer cette liberté. C'est donc une illusion actuelle de croire qu'on puisse créer la vraie liberté. La vraie liberté est un don de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes qui nous donne la chance, si on se tourne vers lui, de pouvoir donner à notre vie un sens, un rôle, une portée, un style, une valeur avec lesquelles on est parfaitement confortable, à l'aise, comblé. Et personne où rien ne peut y attenter au fond. La réalisation de nos options extérieures peut être contrariée, compliquée, difficile, mais rien ne peut nous forcer à renoncer à ce qui nous paraît au fond de nous, la volonté et le désir de Dieu. Les animaux, eux, agissent par instinct, donc nécessairement, pas librement. Et à l'intérieur de l'instinct animal, comme on le sait scientifiquement, il y a un certain choix qui s'exerce. On donne l'exemple classique que si on prenait deux araignées de même espèce, puis on les enfermait dans deux tubes identiques, normalement, on croirait qu'elles vont produire la même toile, mais non. Peuvent produire des toiles différentes. Il y a donc un jeu, mais ce n'est pas librement qu'ils le font. Il y a un choix à l'intérieur de l'instinct. Tandis que les humains, nous éprouvons des besoins, des désirs, mais on peut s'arrêter, on peut réfléchir, on peut changer d'idée, on peut dominer tel et tel projet, telle et telle tendance. Donc, on jouit d'une liberté d'exécution, on peut agir.